machine 4 opérations, par exemple pour calculer des taux, pour calculer ce qu'on appelait les échelles bancaires, et pour faire des quantités d'autres traitements. Une grande orientation d'investissement des fabricants de machines à cartes perforées à partir de la fin des années 20, c'est de construire des machines spécifiques pour, enfin en tout cas des machines qui puissent convaincre les banquiers. Et donc le but, c'est de faire concurrence aux machines comptables à quatre opérations, les machines de table qui existaient déjà, donc d'entrer en concurrence avec les fabricants de machines petites ou moyennes de bureaux, genre Burroughs, NCR et autres. Et celui qui ouvre la voie, c'est Samas, avec des machines purement mécaniques à cartes perforées. Samas est le premier à mettre une imprimante sur sa tabulatrice. Et l'autre chose dont ont besoin les banques, c'est bien entendu de pouvoir imprimer les résultats et même de pouvoir imprimer les opérations avant les résultats pour produire, encore une fois, des relevés de compte et d'autres pièces comptables. Et il se trouve que donc Samas ouvre la voie, et très rapidement IBM et Bull, qui viennent se créer en France, développent elles aussi des tabulatrices, quatre opérations, bien entendu dotées d'imprimantes. Et dans les archives des banques, on voit très bien qu'il s'agit d'attaquer le marché bancaire. C'est pas un marché parmi d'autres, c'est le marché qu'elle vise. Ça se voit aussi dans les publicités. Là, vous n'arriverez sûrement pas à lire, mais j'ai une collection de publicités de fabricants de machines comptables de l'époque, qui sont des publicités rédigées pour les yeux des lecteurs dans les banques. Avec parfois des choses assez drôles. Il y a une publicité d'IBM vers 1931 qui donne l'exemple d'une banque particulière, d'une vieille banque française particulièrement prudente et réfléchie, qui pourtant a investi dans nos machines. Donc on voit bien l'effort commercial que devaient faire les banquiers pour persuader ces banques, avec leur tradition, leur hiérarchie de... Vous savez, il y avait une hiérarchie extrêmement stricte avec des titres dans les banques, comment ça s'appelait, les chargés, les fondés de pouvoir, tout ça a disparu seulement à la fin du XXe siècle. Mais c'était aussi majestueux que la Cour des comptes, il y avait des huissiers à chaîne dans les escaliers. Le monde bancaire était quelque chose qui affichait les symboles de la puissance. Ça se voyait aussi dans les sièges bancaires, les grands sièges sociaux des banques que vous voyez encore dans le quartier du boulevard des Italiens à Paris. Et donc les machines à cartes perforées s'adaptent progressivement à la clientèle bancaire, conquièrent le marché bancaire, et dans le même temps, les banques investissent dans ces entreprises de construction de machines. Par exemple, dans Bull, on trouve très vite du capital de la banque Worms et puis Paribas. Dans le capital de Samas Powers, on trouve la Société Générale qui finit par prendre, je crois, la majorité, en tout cas dans la filiale française de cette entreprise anglaise. Et si on prend un exemple, Paribas, à partir du milieu des années 30, Paribas soutient l'expansion de Bull en France, en finançant les extensions progressives de l'usine Bull, avenue Gambetta à Paris, et aussi à l'extérieur, en soutenant la création par Bull de filiales en Belgique, puis aux Pays-Bas, mais aussi en Italie, au Brésil, et puis plus tard. Bon, Bull, à la fin des années 50, c'est une entreprise multinationale, une multinationale familiale française qui est présente dans 50 pays du monde et qui exporte près de la moitié de son chiffre d'affaires. Voilà. Alors le problème de Bull, c'est que plus elle fait des gros ordinateurs, plus elle est obligée de mettre ceci en location parce que les clients n'ont pas les moyens de les acheter. Or, qui dit mise en location dit que le fabricant sert un petit peu de banquier à ses clients, puisqu'il ne touche des redevances de location que de façon progressive. Et donc, pour vous la faire brève, Bull plonge dans le rouge à partir de 1961-1962, se trouve dans une crise très grave en 1963. Et évidemment, Paribas, qui est un de ses actionnaires et qui a un membre au conseil d'administration, est sollicité pour venir au secours de Bull. La première solution consiste à créer une filiale de leasing qui s'appelle Locabull et dont la formule est très simple. Locabull, qui a un gros capital de Paribas, et dont le patron est un mathématicien nommé par Paribas. Locabull achète cash les machines à bulles, les machines à la compagnie des machines Bull, et ensuite les met en location sur le marché. Donc c'est une façon d'atténuer la lourdeur du système de la location pour la trésorerie de Bull. Bon, mais comme Locabull est créé au beau milieu d'une crise, la compagnie des machines Bull n'a pu négocier ça qu'au minimum, et ça sert tout juste à lui tenir le nez hors de l'eau. Et ça ne suffit pas à la sauver. Finalement, Paribas est un acteur décisif, quoique peu visible, dans ce qu'on a appelé l'affaire Bull. Et c'est Paribas qui estime que Bull est trop profondément plongé dans une crise difficile pour être sauvé par des intérêts français, et que la meilleure chose à faire, c'est de faire reprendre la compagnie des machines Bull par une multinationale américaine qui se présente à ce moment-là et qui a envie de s'implanter sur le marché européen, General Electric. Et à partir de ce moment-là, Paribas commence à être la bête noire de tous les tenants d'un patriotisme économique, pour utiliser un terme d'aujourd'hui, les tenants d'un patriotisme économique qui sont déjà en train de monter le plan calcul, qui au départ voulaient monter le plan calcul avec Bull et qui ont été obligés de faire sans. Et Paribas reste prudemment à distance, tout en restant actionnaire minoritaire de Bull. Ensuite se crée le plan calcul, donc avec un champion national, la Silomi, et on a un schéma un petit peu semblable, c'est pas très surprenant, mais sans Paribas cette fois. La C2I est une filiale de Thomson et de CGE, plus quelques autres actionnaires, et sa trésorerie est assurée par un pool de banques dont le chef